Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous ce matin. On poursuit ses regards en route vers les élections municipales de Québec. Ce matin, le thème tourisme et patrimoine. On ira en quelques temps, notamment en deuxième heure, on va parler de l'accès au fleuve, patrimoine naturel. Comment ça se passe? Comment ça pourrait? Comment ça devrait se passer? On en discute avec Léon Souneau de la Société Jean de Baignade. On va également se poser la question, comment est-ce de vivre au cœur du patrimoine en compagnie de Louis Germain du Comité des citoyens du Vieux-Québec. Parallèlement, on aura une discussion sur le patrimoine naturel, sur le patrimoine bâti, sa préservation, sa mise en valeur dans la capitale et dans sa région, en compagnie de Marcel Junius, architecte et urbaniste, en compagnie également de Serge Roy, qui est porte-parole capitale nationale pour Québec solidaire. Et on jette immédiatement un coup d'œil au tourisme, au visage du tourisme ici et ailleurs, à la place qu'on lui donne, en compagnie de Christian Rochette, notre chroniqueur société. Christian, bonjour.
Bonjour Raymond.
Alors, on se lance justement, tourisme, comment il s'exprime, comment il devrait s'exprimer aussi?
Exactement, ce qu'en fait, pour tout individu se présentant à la mairie de Québec, il devrait toujours avoir, en fait, tant qu'à moi, une adéquation entre deux grandes dynamiques qui sont présentes dans le tourisme à Québec. Premièrement, en tant que maire, il faut avoir une préoccupation pour l'essor de l'industrie du tourisme en soi, comme n'importe quelle autre industrie. Autrement dit, voir à son expansion et non pas à sa régression à travers les années. L'autre grande dynamique, par contre, qui doit toujours être en interrelation avec le développement de l'industrie touristique, c'est ce qui va être abordé également avec les autres invités plus tard, finalement, c'est l'interrelation qui doit exister constamment entre la vie locale, la vie citoyenne et la vie touristique. Non pas pour que un soit un frein à l'autre, mais plutôt que un et l'autre se stimulent et que ça soit finalement toujours dans une espèce de mouvement d'aller-retour pour générer finalement un meilleur tourisme dans la région de Québec et aussi une meilleure vie locale. Donc, puis en fait, je vous propose de faire ça ce matin un peu aussi à travers mes humbles expériences de voyage que j'ai pu avoir. Parce qu'évidemment, ça reste toujours un peu boiteux de comparer avec d'autres villes dans le monde, parce qu'on ne va pas nécessairement à Paris ou à New Delhi pour les mêmes raisons qu'on va à Québec, par exemple. Mais il y a quand même des points sur lesquels on peut s'inspirer, puis qui sont quand même intéressants, qui amènent des réflexions sur la place du tourisme à Québec.
Et puis dans l'absolu, il y a toujours, j'imagine, aussi une compétition de vendre Québec contre des marchés européens, des marchés étrangers. Alors, reste qu'il y a une comparaison qui est nécessaire malgré tout.
Exactement. Puis il reste aussi quand même qu'il faut considérer que tous les touristes ne sont pas pareils non plus. Il y a du tourisme extrême, il y a du tourisme de détente, il y a du tourisme de découverte. Donc, en fait, il y a quand même plusieurs choses à considérer là-dedans. Puis pour le bien de la chronique aujourd'hui, j'en reste uniquement à la dynamique du Vieux-Québec, je vous dirais essentiellement. Parce qu'évidemment, on pourrait poser la même question pour tout le tourisme périphérique de la région. On peut penser à l'île d'Orléans ou à Charlevoix, qui pourrait même faire le même genre de réflexion. Peut-être juste avant de commencer rapidement à replacer l'importance du tourisme à Québec, je vais aller chercher certains chiffres pour le bien de la chronique. À Québec, on reçoit 4,5 millions de touristes par année. Sur les 4,5, il y en a 1,2 qui viennent de l'extérieur du Canada. Et enfin, on parle en provenance de 75 pays. Il y a au-dessus de 250 hôtels dans la région de Québec. On parle d'un potentiel de 12 600 chambres, dont 2 000 qui sont situées soit dans le Vieux-Québec ou vraiment à proximité du Vieux-Québec, ce qui est quand même des chiffres importants. Puis on parlait de faire le développement de l'industrie touristique à Québec également. Ça reste quand même important parce qu'il y a au-dessus de 20 000 personnes qui travaillent dans le secteur de l'hébergement et de la restauration à Québec, sans considérer tous les gens qui travaillent dans le milieu culturel puis qui aident à animer et à garder ces gens-là dans la région. Donc, c'est pas un petit sujet non plus. Ça a quand même une grande importance pour l'économie locale. La première réflexion sur laquelle je vais en venir pour le tourisme aujourd'hui, puis toujours en se gardant dans la perspective que, un, il faut développer le tourisme, mais deux, il faut le conjuguer avec une vie locale. En fait, à Québec, est-ce qu'on veut avoir finalement un tourisme contemplatif ou un tourisme participatif? Je cherchais pas ces termes-là dans d'autres études ou n'importe où ailleurs. Je les ai créé moi-même. Mais en fait, peut-être juste pour illustrer un peu la chose, qu'est-ce qu'un tourisme contemplatif? Je vous dirais, c'est ce que j'ai vécu l'an dernier quand je suis allé en Europe de l'Est, dans la ville de Dubrovnik. Peut-être juste pour situer Dubrovnik, c'est une ville qui est en Croatie, qui a été créée au 12e siècle. Donc, et je peux vous assurer, en fait, pour l'avoir visité, que c'est le genre de ville qui ferait probablement rougir n'importe quel grand défenseur des beautés du patrimoine de la ville de Québec. Juste pour vous situer, c'est carrément le long de la mer Méditerranée. C'est une ville qui est fortifiée, avec les toits en azuléros, les murs qui sont blancs granit. Mmh. Donc, vous pouvez imaginer quand vous êtes sur une montagne et que vous voyez Dubrovnik au loin, donné directement dans la mer Méditerranée, le genre de contexte qu'on peut avoir.
Il y a un coup d'œil absolument superbe.
Oui, tout à fait. Puis en même temps, il y a quelque chose de très comparable à Québec, parce qu'à l'intérieur de Dubrovnik, finalement, il y a ce centre historique en particulier qui pourrait être un peu dans la même dynamique que Québec à la limite, parce qu'on a la grande région, mais essentiellement, le tourisme, il vient pour la vieille partie de la ville de Québec. Et pourquoi j'associe Dubrovnik finalement au tourisme contemplatif? C'est qu'en fait, Dubrovnik, une fois que vous l'avez visité pendant une journée, il n'y a plus aucune raison d'être là, tout simplement. C'est du tourisme qu'on fait pour aller voir finalement une ville fortifiée, une ville qui est ancienne. Mais à l'intérieur de la vieille ville, le grand problème finalement qu'a Dubrovnik, c'est qu'il n'existe, il y a pratiquement plus d'existence citoyenne croate à l'intérieur de la vieille ville. Donc évidemment, ce que ça peut donner, c'est qu'on se retrouve à manger à un restaurant, on visite la ville pendant une journée. Le soir, on a absolument plus rien à faire. Parce que moi-même, dans mon projet de voyage, j'avais pensé rester là un bon 3-4 jours. Mais après une journée ou deux, c'est terminé. Donc, c'est un peu comme si finalement le tourisme avait mangé la vie culturelle croate. Et je dirais, les seules bribes qu'on peut y retrouver encore aujourd'hui, finalement, c'est d'assister à quelques spectacles folkloriques sur la grande place de la ville en mangeant un quelconque repas dans un resto à touristes. Vous voyez un peu le genre de profil. Donc, finalement, c'est une ville qui finit jamais par se renouveler et qui dépend uniquement des visiteurs qui sont là de passage.
Et c'est le genre de ville où on va une fois, deux fois, mais on n'y retourne pas une fois qu'on a vu ce qu'on avait à voir, même.
Oui, ou si on y va, on n'y reste pas. Mm-hmm. Et ça, c'est, en fait, puis il faut pas le voir uniquement d'un côté citoyen, parce que oui, c'est triste de voir les citoyens croates avoir carrément quitté la vieille ville de Dubrovnik. Mais ce qu'il faut considérer en pur terme d'économie touristique, il n'y a aucune raison d'y rester plus qu'une journée. Donc, c'est pas nécessairement beaucoup plus rentable, juste de ce point de vue-là. Puis peut-être pour le comparer avec ce que j'associerais à du tourisme participatif, c'est-à-dire du tourisme finalement où on s'intègre à la vie et on fait plus que regarder uniquement des bâtiments, finalement où on est ailleurs que dans un simple musée à ciel ouvert. C'est l'exemple d'autres villes que j'ai pu visiter comme Séville, Madrid. On parle également de Belgrade et Budapest, qui sont des villes qui ont carrément su intégrer la vie citoyenne, qui ont réussi à garder leurs citoyens à l'intérieur des vieux centres, à l'intérieur de la ville. Et en fait, le résultat final, c'est que finalement, on peut aller dans ces endroits-là pendant la journée, visiter les lieux historiques. On pense par exemple à Madrid, il y a le Palais Royal, il y a le musée Prado à visiter. En fait, c'est quelques exemples, mais le potentiel est énorme. Et le soir, on participe carrément à la vie de la ville. On va dans les mêmes cafés, dans les mêmes restos que les Espagnols. On va dans les mêmes bars également.
Et j'ai l'impression que ça fait partie peut-être un peu ça de l'objectif du tourisme. On y va, oui, pour voir où les gens vivent, voir les villes, voir les monuments, etc., mais on y va aussi pour vivre avec les gens qui habitent ces lieux-là.
Exactement. Puis on se crée une expérience culturelle qui dépasse largement
l'observation
du beau historique, si je peux m'exprimer ainsi. Puis finalement, on y reste 3, 4, 5 jours. Vous savez, en fait, de mon expérience personnelle, quand je suis arrivé en Espagne, j'y ai passé un mois. Mon projet, c'était de rester trois jours à Madrid et après de partir à la découverte du pays. Finalement, je suis resté les 5 premiers jours à Madrid et au retour, une fois le voyage terminé, je suis allé passer un autre 3 jours. Donc, au total, sur un mois, je suis resté 8 jours là. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on entre carrément dans un rythme de vie qui est intéressant, qui est nouveau et qui dépasse largement le fait de côtoyer du tourisme à tous les jours. Donc, puis en fait, même, j'ai pas mentionné Barcelone, et Barcelone, c'est une ville excessivement touristique, pas nécessairement besoin de le mentionner beaucoup, c'est un nom qui est connu partout à travers le monde, mais c'est un peu la même chose. C'est sûr qu'il y a des quartiers qui sont un peu plus touristiques, sont un peu plus chers, mais il reste que c'est très facile de se joindre à la vie du coin. Puis c'est pas des choses qui se font tout seul non plus, parce que, un, il faut garder les citoyens à l'intérieur de la ville. Pour garder les citoyens à l'intérieur de la ville, il faut garder le loyer abordable, ce qui n'est pas nécessairement toujours évident. Mais en même temps, ça permet, si on regarde les loyers bas, d'éviter la gentrification. Et par conséquent, amener une ville qui est, une vie qui est dynamique à l'intérieur de la ville. Et deux, également, ça prend des moyens de transport en commun également, parce que, évidemment, il y a des gens qui habitent en ville, mais il y a tous les gens de la périphérie qui vont fréquenter le centre-ville. Puis peut-être juste pour comparer des villes comme Budapest, et je le mentionne, Budapest, c'est une ville de l'ancien bloc de l'Est à l'époque communiste. C'est une ville quand même qui a connu un certain ralentissement économique pendant presque un demi-siècle. Et vous regardez le transport en commun là-bas, c'est à faire rougir des villes comme Québec qui sont en pleine expansion économique.
Oui, en fait, disons qu'en général, quand aller faire du tourisme en Europe, on se rend compte à quel point le transport en commun, justement, est développé et là pour... aider aussi à se rendre dans ces quartiers-là. Il y a beaucoup d'incitatifs en Angleterre, en France, etc.
Exactement. Puis peut-être qu'on compare des marchés, en fait, des attraits touristiques qui sont pas exactement pareils, mais Vienne, c'est un autre exemple. À Vienne, vous marchez dans la ville, vous n'entendez pratiquement jamais de voiture. Parce que, un, vous avez un métro, deux, vous avez un train électrique, trois, vous avez des tramways, quatre, le long de chacune des rues, vous avez des pistes cyclables. Donc, résultat, vous vous retrouvez dans une ville qui est silencieuse, dans une ville qui est pas polluée, et dans une ville où finalement tout le monde marche, et ça crée une atmosphère qui est assez intéressante. Mais tout ça pour dire que quand on réussit à garder son centre-ville animé et citoyen, on crée une expérience touristique. Et pour comparer au Vieux-Québec, lorsqu'on voit dans le Vieux-Québec les fermetures de toutes les épiceries du quartier, finalement, parce qu'il en reste aucune, je dirais, de majeure. Et on rajoute à ça la fermeture d'autres lieux qu'en fait que je fréquentais même pas nécessairement moi-même, mais que je suis assez triste de voir disparaître. On pense aux boîtes de nuit comme le Cachemire chez son père et même l'Arlequin. On enlève carrément la vie de quartier et les possibilités de vie de soirée, les vies nocturnes. Et finalement, est-ce qu'on se retrouve nous-mêmes pas en train de devenir une espèce de Dubrovnik, finalement.
En se disant, on fait une vie pour les touristes d'abord, en oubliant peut-être un peu qu'il faut avoir des citoyens pour intéresser les touristes au-delà de la journée de départ où on se promène, où on découvre.
C'est ça, puis on crée quand même des manifestations touristiques. Il y a quand même des efforts qui sont faits par la ville qui sont louables. On pense aux moulins à images ou au Cirque du Soleil qui sont ici cet été. Ça reste quand même des manières d'exprimer notre culture et de donner une certaine expérience de vie aux touristes qui viennent ici. Mais au bout de la ligne, jusqu'à un certain point, c'est à mi-chemin entre le contemplatif et le participatif. Mm-hmm. Donc, c'est pas nécessairement la vie au jour le jour. C'est une manifestation culturelle que l'on fait. C'est bien, mais c'est pas ça qui ancre les gens ici nécessairement, tant qu'à moi.
En fait, pour reprendre peut-être des propos d'un intervenant qu'on a reçu un peu plus tôt cette semaine, ça devient une animation peut-être artificielle, dans le fond.
Exactement, spontanée, qui dure un certain temps, mais c'est pas ça qui ancre les gens dans le milieu. Deuxième réflexion sur laquelle je veux venir, qui pourrait être bonne, en fait, pour l'économie touristique de la région, et là, je pense vraiment toujours au Vieux-Québec, c'est l'élimination des anachronismes qui, un, donne un plus au patrimoine de la place, autant architectural que, finalement, que dans la vie de tous les jours. Et quand que je parle d'éliminer les anachronismes, je vous donne l'exemple de Saint-Jacques-de-Compostelle. Compostelle, quand même, c'est une ville qui doit une grande partie de sa fondation au 8e siècle, mais qui peut reculer jusqu'à l'époque de l'Empire romain. À Compostelle, dans le vieux centre historique, qui est une ville d'à peu près, en fait, le vieux centre historique, on parle de 50-60 000 habitants, les seuls véhicules qui ont le droit de circuler dans la vieille partie de la ville, ce sont les livreurs. Et les livreurs ont le droit de circuler dans la ville de 6h à 8h le matin. Le reste de la journée, c'est uniquement réservé aux piétons. Résultat de tout ça, en termes de tourisme, c'est qu'on se retrouve dans une ville médiévale, et on n'entend aucun bruit de moteur. C'est bête. Souvent, on veut mettre en valeur des bâtiments en les illuminant, par exemple, ce qui est une très bonne idée. Mais lorsqu'on plonge vraiment dans le contexte historique, parce qu'au Moyen-Âge, évidemment, il n'y a pas de voitures. Donc, quand on réussit à éliminer les voitures, on redonne l'atmosphère, finalement, sonore également d'une ville et de son époque. Mm-hmm. Et ça aussi, ça pourrait très bien s'associer à Québec. En fait, il y a déjà des efforts qui sont faits. On ferme la rue Saint-Jean, on la rend piétonne. Il y a des écolobus qui se promènent dans la ville et qui sont silencieux. C'est également des bons éléments. Mais il reste qu'au bout de la ligne. Je pense qu'on s'en rend pas nécessairement compte parce qu'on vit avec les voitures à longueur de journée dans le Vieux-Québec. Mais éliminer ce bruit-là, un, vous redonnez une quiétude aux résidents. Et deux, en plus, vous créez une atmosphère carrément de ville de Nouvelle-France au Vieux-Québec.
Et ça a été démontré économiquement. Je pense que les rues piétonnes attirent aussi des commerçants qui étaient peut-être farouches à l'idée au départ, qui finalement font des affaires d'or les journées où justement, juste sur la rue Saint-Jean, on dit « ben il n'y a pas d'auto ».
Exactement. Puis en pur terme de dimension géométrique, en fait, quand on y pense sur la rue Saint-Jean, additionner les deux trottoirs de chaque côté, comparé à la largeur de la rue, on réserve autant de places aux piétons qu'il y a des voitures qui sont là en transit. Et alors que lorsqu'on ferme la rue, on se crée un potentiel finalement de passage beaucoup plus élevé qu'une voiture où finalement une en arrière de l'autre qui contient une personne chaque. Donc ça, c'est un autre élément qui peut être important, qui est un plus, comme je dis, qui peut servir l'industrie touristique, mais tout en permettant aux résidents de récupérer une bonne qualité de vie. Dernier élément sur lequel je veux venir, puis c'est d'actualité, tu en as parlé un peu également dans la revue de presse, est-ce qu'on peut finalement donner le temps aux bâtiments qui ne sont pas encore historiques de le devenir? Je pense à la fameuse chapelle des Franciscains qui est en train de se faire démolir actuellement, l'église Saint-Vincent-de-Paul. Dans le quartier Saint-Sauveur, en fait, tout près de chez moi, il y a l'église Notre-Dame-de-Grâce également qui a été démolie dernièrement. Souvent sous l'idée que, bon, ça a à peine 100 ans, c'est pas vraiment historique. Donc, on peut se permettre de démolir et de construire autre chose à la place. Je me permets quand même de dire que lorsqu'on va visiter certaines hautes villes, par exemple Barcelone que j'ai parlé tout à l'heure, on ne va pas en Europe ou dans une ville comme Barcelone juste pour voir l'architecture qui est la plus ancienne. On va à Barcelone pour voir la succession des époques architecturales et voir le patrimoine qu'il y a à l'intérieur de cette ville-là. Et c'est exactement la même chose à Québec. Si on peut donner le temps à ce qui n'est pas historique de le devenir, ben un, on lègue un potentiel encore plus grand aux générations futures, et deux, on permet peut-être de développer, de faire une expansion de notre tourisme. Je ne peux pas m'empêcher cette petite éditoriale sur l'actualité, mais c'est quand même important de considérer qu'il ne faut pas juste garder le plus vieux, il faut également préserver ce qui est ici en ce moment et qui, dans 50 ans, ou 100 ans, ou 200 ans, va devenir un potentiel historique également.
Oui, enfin, on est loin de l'époque où, les Romains et Turcs et autres construisaient perpétuellement sur les mêmes bâtiments, les modifiant. Un temple grec qui est devenu une église, qui est devenu une mosquée, qui est devenu autre chose. Alors aujourd'hui, on est plus à l'époque de on rase et on reconstruit à la place aussi, plutôt que de bonifier les structures déjà existantes.
Exactement, donc c'est des pertes totales. Puis on peut parfois simplement redonner une mission à un bâtiment différente et on garde quand même le bâtiment. Peut-être juste vous rappeler à la mémoire Lord Dufresne pour savoir, en fait, Lord Dufresne de Terrasse Dufresne. C'est l'homme à la fin du 19e siècle qui a travaillé à la conservation des murs de la ville. À la fin du 19e siècle, la ville de Québec voulait détruire, le gouvernement provincial voulait détruire les murs de la ville. Aujourd'hui, on voit l'avantage de les avoir conservés. À l'époque, c'était pas nécessairement historique. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, ça prend des efforts comme ça pour garder les bâtiments.
Mais Christian Rochette, merci beaucoup pour ces réflexions.
C'est un plaisir à nouveau, Raymond.
À la prochaine.
À la prochaine.
Et on poursuit ces regards, ces réflexions autour du contexte du tourisme et du patrimoine ici dans la ville de Québec. Alors, bien entendu, patrimoine naturel, patrimoine bâti, plusieurs réflexions qui sont en cours d'ailleurs, et je trouve ça intéressant d'aborder ce thème aussi aujourd'hui, alors qu'on vient de commencer, notamment le démantèlement de la façade de l'église Saint-Vincent-de-Paul, alors qu'on vient de commencer également la démolition de la chapelle des Franciscaines dont on parlait tout à l'heure. Alors, j'ai comme l'impression que le climat est particulièrement propice à ces réflexions qu'on vous propose en cette journée du 6 août. Alors pour réfléchir autour de la question du patrimoine naturel, du patrimoine bâti, de sa préservation, sa mise en valeur, sa protection, je suis en compagnie tout d'abord de Serge Roy, qui est porte-parole de Québec solidaire pour la capitale nationale. Bonjour.
Bonjour.
Et également, je suis en compagnie de Marcel Junius, qui est architecte, qui est urbaniste, qui a été, entre autres, président de la Société des biens culturels du Québec. Bonjour.
Bonjour.
Alors, mais peut-être si on commence, j'aime bien mettre les cartes sur table au départ. Là, actuellement, quand on parle de patrimoine, quand on regarde la situation qui est liée à tout ça, qu'il soit bâti, qu'il soit naturel, est-ce qu'on la regarde chargée d'optimisme? Est-ce qu'on a l'impression que Québec est sur la bonne piste? Ou au contraire, est-ce qu'on se dirait plutôt que l'administration municipale, que la ville est en train de s'égarer?
Qui commence?
Ben, allez-y.
Oui, il va y aller. Alors, je vais ouvrir le débat. Bonjour, Serge. Et puis,
bonjour.
On va entamer notre discussion précisément sur un sujet qui est d'actualité, vraiment d'actualité, puisque aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des bulldozers qui sont là sur le couvent, enfin les ruines, les restes du couvent des sœurs franciscaines de Marie. Alors, tout le monde connaît maintenant, parce qu'il y a eu plusieurs photos dans les journaux, Le Devoir en a parlé aussi, Montréal s'est intéressé à Québec, évidemment, parce que ça fait du bruit, cette affaire-là, non seulement du bruit, c'est le tonnerre et le dynamitage et les bulldozers, mais ça fait du bruit dans les idées. Alors, c'est vraiment un débat qui se fait à Québec présentement, à savoir, et je crois que mon prédécesseur à ce micro l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que l'on veut garder de notre ville? Est-ce qu'il faut démolir avant que ce ne soit vraiment historique? C'est toujours historique. Un bâtiment, il est construit, il prend de l'âge. Comme nous prenons de l'âge depuis notre naissance, on peut dire, on peut expliquer les choses comme on veut. Les bâtiments, c'est la même chose. Et alors, il arrive qu'à un moment donné, plutôt que de conserver, mais surtout de trouver des solutions pour recycler, pour réhabiliter, pour rénover d'une certaine façon, trouver de nouvelles occupations, trouver de nouvelles vocations peut-être à ces édifices. Or, sur les Sœurs Franciscaines de Marie, il y en avait. Et j'en connais qui datent de 15 ans, où c'était déjà en l'air, où ça allait peut-être un jour ou l'autre partir. Eh bien, on avait proposé au ministère certaines choses, certains projets, pour mettre en valeur la ville de Québec dans ce bâtiment-là, en faisant un endroit qui serait le bâtiment principal de la ville de Québec pour son histoire, sa bibliothèque. Bibliothèque uniquement basée sur la ville de Québec depuis sa création. Des archives, de l'iconographie, etc., etc. Toutes des choses qui auraient été intéressantes. Tous les plans de la ville. Tous les plans qui se sont succédés pour faire la ville, que ce soit en bien, que ce soit en mal, que ce soit les projets d'autoroute, que ce soit n'importe quoi. Tout aurait été là, ça aurait été un centre non seulement de documentation, mais c'est vraiment un centre de connaissance de la ville de Québec. Alors, une bibliothèque sur la ville, c'était important, on n'en a pas ici. On ne peut pas dire, on va à un endroit et on a sur notre ville, on a toute l'information. C'était un projet, ce n'était qu'un projet. Mais c'était un projet quand même qui aurait pu voir le jour. Là, on me dit aujourd'hui que il y a une carence, enfin, du côté des, ça s'appelle des centres de développement physique, là, d'entraînement, là. Hein. Bon, on m'a dit, bon, il y avait le YMCA, etc., sur l'avenue Laurier, qui a été démoli pour faire place à un hôtel, etc., etc. Ça a parti. Là, c'est créé Cardio, le centre Cardio, là. Qui, justement, apparemment, maintenant, c'est peut-être trop petit, il faut changer, il faut trouver un nouvel endroit. Alors, on va aller ailleurs, peut-être. Mais là, il y avait la chapelle, on aurait pu faire dans la chapelle aussi. C'était un bel endroit, c'était aéré, c'était grand, c'était bien, ça aurait pu être ça. On a bien fait un cirque ici, dans une église à quelques pas de la station ici.
Donc il y a un peu quelque chose dans le fond de vision à court terme quand on dit ben on démolit, on met de côté plutôt que d'essayer réfléchir à récupérer dans le fond ce bâtiment-là.
C'est ça l'affaire. Alors c'est ça, c'est le court terme. Alors c'est immédiat, on démolit.
C'est le court terme sans vision.
Sans vision.
Et parce que bien sûr, parfois, on a besoin de prendre des décisions de court terme, mais si elles ne sont pas situées dans un cadre, dans une vision, dans une politique plus générale pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'espace urbain à Québec, ben on se retrouve avec une multitude de sites qui, à toute fin pratique, sont très fragilisés, sont à quelque part menacés aussi. Bon, on parle des franciscaines parce qu'on est en train de le démolir au moment où on se parle, mais on a démoli Saint-Vincent-de-Paul. La façade est encore debout ce matin. Je suis passé exprès ce matin pour savoir s'il n'y avait pas eu quelque chose durant la nuit, parce que il y a des promoteurs qui ne gênent pas. Ils vont allègrement parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas sanctionnés. Et le promoteur, dans le cas de Saint-Vincent-de-Paul, il s'en tire très bien. Il a démoli de façon illégale, irrespectueuse, délinquante, et il est presque récompensé. Mm-hmm. On lui dit quoi faire et bon, il n'y a pas de problème. Il se passe toujours rien sur le fameux site. Et moi, je maintiens, comme je l'ai déjà dit dans le passé, dans ce site-là en particulier, on devrait reprendre possession du site pour en faire un projet qui se tienne, pour en faire un projet vivant, au lieu d'avoir un hôtel, encore un hôtel. Et je pense pas que ce soit d'hôtel dont on a besoin au centre-ville de Québec en particulier, parce qu'il y a de l'espace aussi dans la région. Il n'y a pas seulement que le centre-ville de Québec à développer. Et donc, il faudrait qu'il y ait des mesures qui soient prises. Et pour moi, c'est pas seulement la ville de Québec qui est en cause, c'est aussi le gouvernement québécois et d'une certaine manière également le gouvernement fédéral, parce qu'ils ont des responsabilités partagées sur toute la question patrimoniale. Et là, dans ce cadre-là, on voit très bien qu'il n'y en a aucune politique. Il n'y a aucune cohérence entre les différents paliers de gouvernement. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas toi, Marcel, si tu en as vu plus. Tu connais ça davantage que moi. Non. Mais quand on s'est penché sur la question du patrimoine mondial de l'UNESCO pour le Vieux-Québec il y a maintenant pratiquement deux ans, nous, on a analysé un petit peu les choses et on s'est aperçu qu'effectivement, la Ville de Québec faisait une chose, le gouvernement québécois en fait une autre et le gouvernement fédéral ne fait pas grand-chose. Alors que, en vertu du statut de patrimoine mondial, les trois paliers de gouvernement sont censés avoir une politique qui est cohérente et qui vise à protéger les lieux. Or, juste dans ce périmètre-là, à l'heure actuelle, il y a au moins trois ou quatre sites importants qui sont dans un état de délabrement. Bien sûr, Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi l'îlot des Palais. On vient de nous annoncer qu'il ne se passera rien là. Je veux bien qu'on mette des arbres et des fleurs. C'est très joli, mais ça serait encore mieux si c'était fait dans le respect du patrimoine, la valorisation du patrimoine qu'il y a là. Mais aussi la maison Loyola, où là, on a annoncé un projet, mais on ne sait pas trop. Est-ce que le financement va venir? Est-ce que les gens qui ont eu une excellente idée, par ailleurs, cas-là, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Alors, je pense que si on regarde juste ce petit coin-là, c'est affolant. Mais là, si on va plus loin dans la région, même dans la ville de Québec, et qu'on ajoute le patrimoine naturel, on se rend compte que le mot « patrimoine » pour les gens qui nous dirigent à l'heure actuelle, moi, je suis politicien, j'ai un peu tendance à les critiquer. Alors, on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien qui se fait. Et on peut couper des arbres, on peut détruire des milieux, on peut, et tout ça au nom de développement qui est inventé par des promoteurs qui, eux, regardent un spot, excusez l'expression, et qui se disent « là, ça va être payant ». Ben, c'est pas ça le développement d'une ville, l'aménagement d'une ville, tant qu'à moi, d'un espace, d'une région. Ça n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose.
Vous venez de parler là, d'avenir, de vue perspective sur l'avenir, d'une vision.
Oui.
Mais on n'en a pas. Et tout ça parce qu'il y a une division des tâches du fédéral au provincial et au municipal. Et là, il y a absolument une absence de cohérence et de vision. Je vais prendre le cas de Rabaska. Alors, dans un cas patent où, précisément, le gouvernement québécois n'est pas présent à la table des discussions. N'est pas présent. Le ministère des Affaires culturelles n'y était pas. Une chaise vide. Alors qu'on devait protéger des paysages, alors qu'on devait protéger le littoral, alors qu'on devait protéger précisément quelques aspects culturels qui étaient dans le coin, et surtout l'île d'Orléans, qui est un bien culturel extraordinaire. Et alors là, juste en face, on construirait des jetées, on construirait des pylônes, enfin bref, tout ce qu'on voit sur Ultramar, on le verrait évidemment un jour ou l'autre devant l'île d'Orléans. C'est magnifique. Alors donc, c'est magnifique, hein, je blague, mais je veux dire, c'est épouvantable de penser qu'on puisse en arriver là. L'église Saint-Vincent-de-Paul, il faut que le gouvernement municipal et le gouvernement provincial s'entendent sur précisément ce qu'on fait avec le patrimoine. Ce sont ce qu'on appelle les ententes Québec-MAC à l'époque, c'était le ministère des Affaires culturelles. Alors, il y a des ententes. Mais là, pour la destination de l'édifice et pour sa vocation et pour sa protection et pour sa conservation, alors là, on ne s'entend plus. Comme tu dis très bien, cette illégalité du promoteur de démolir sans le permis du ministère de la Culture. Et on ne sait jamais, peut-être bien que le meilleur a des subventions pour le récompenser.
Bien, ma foi, ça ne sera pas surprenant.
Mais voilà.
Mais en fait, j'ai comme l'impression, quand on parle de patrimoine, dans l'esprit populaire, dans l'esprit des gens à Québec, de certains visiteurs, de certains administrateurs, ce patrimoine-là se limite beaucoup au secteur du Vieux-Québec. Et c'est peut-être un danger de voir comme le Vieux-Québec, l'intérieur des murs, comme le lieu de patrimoine, alors que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça quand on est à l'île d'Orléans tout à l'heure, à Rabaska. Donc, ça dépasse de loin les murs du Vieux-Québec.
Ben, ça dépasse de très loin les murs du Vieux-Québec. Si on parle seulement du patrimoine bâti, rapidement, je cite ça, je suis certain que Marcel pourra en citer d'autres, mais pensez au Vieux-Beauport, Vieux-Charlebourg, Vieux-Sillery, ainsi de suite. Il y a là, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais dans chacun de ces endroits-là, dans chacune des anciennes villes, il y a des vieilles parties où on trouve un patrimoine bâti extrêmement précieux, extrêmement parlant historiquement, parce que tout s'est pas passé uniquement à l'intérieur des murs de la vieille ville de Québec, et d'autant plus que les murs n'étaient pas là au point de départ. Alors donc, il y a bien des choses qui se sont passées en termes d'implantation de cette communauté française en Amérique et des relations avec les Autochtones, avec les Amérindiens. Je pense que quand on parle de patrimoine, c'est tout ça, et c'est pas seulement limité à un petit espace de quelques mètres carrés qui, finalement, ont été conservés, oui, mais ont été organisés pour répondre à des besoins touristiques et commerciaux essentiellement. Et même si certains prétendent que la vie dans le Vieux-Québec est tout à fait agréable et formidable, bon, moi, je veux bien, mais il faut quand même constater que c'est compliqué pour des familles d'aller s'installer dans le Vieux-Québec, parce qu'il y a des services de proximité qui sont tout simplement disparus, et parce que, aussi, c'est extrêmement coûteux. Et on a permis, et ça s'étend au-delà du Vieux-Québec, remarquez bien, on permet qu'il y ait une spéculation foncière d'un tel ordre que finalement, on est en train de faire en sorte que c'est plus possible de vivre là, à moins d'être extrêmement fortuné. Et si on laisse aller les choses, ça va aller de pire en pire. En ce qui concerne le patrimoine naturel, c'est bien évident que dans le Vieux-Québec, le patrimoine naturel, bon, il a cédé la place. Il a cédé la place. Il y a quelques îlots de verdure qui sont extrêmement précieux. Oui. Mais bon, il faut nécessairement sortir du vieux si on veut parler sérieusement de patrimoine.
Si on parle de patrimoine naturel, comme tu le dis très justement, il n'y en a pas dans le Vieux-Québec. Ça, c'est absent. Mais il y a le littoral. Et il y a le plan d'eau.
Ouais,
il y a deux plans d'eau. Moi, je dis, quand tu es à Québec, que tu regardes Lévis en face, on voit le fleuve, eh bien, ton esprit s'en va avec le fleuve, l'eau qui coule, l'eau qui roule, n'est-ce pas, et qui s'en va dans l'Atlantique, et qui s'en va en Europe, et qui s'en va en Afrique. Donc on est lié vraiment au monde, vraiment, en regardant ce Saint-Laurent fabuleux. Hein? Bon. Mais effectivement, quand on revient sur le patrimoine bâti, et quand on cite Charlebourg, Sillery et Beauport, ben voilà trois endroits où l'on espérait voir autant de choses se produire que dans le Vieux-Québec. Et je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années, tout se passe dans un territoire de, disons, 2 km². Tout se passe là. Les grands rassemblements, les grandes manifestations, les shows, le show business, tout se passe là, dans le Vieux-Québec.
Tout est concentré.
C'est 2,5 km, et puis je trouve que ça abîme. Et alors, le crash ice, que ce soit toutes ces folies furieuses d'aujourd'hui, bon, il y a des amateurs, alors je les respecte, bien entendu, mais tout de même, tout se passe là. Il y a d'autres endroits. Et alors, c'est pour ça que cette vision de la ville, hein, c'est ça justement, c'est de dire, il faut déconcentrer, il faut des noyaux forts dans une ville. C'est ma théorie, c'est de dire, il faut un cœur qui bat, mais il faut aussi des noyaux tout autour qui respirent avec le cœur et qui alimentent le cœur. Et ces noyaux-là, forcément, ont des identités particulières. Beauport n'est pas Charlebourg. Charlebourg n'est pas Sillery. Le vieux Sillery, je parle, hein, on parle ici. Et puis alors, tout autour de ces entités anciennes, disons, historiques, puisqu'on les a, elles sont décrétées, arrondissements historiques par le gouvernement du Québec, il y a des années d'ici, eh bien, à partir de là, c'est tout l'ensemble qu'il faut. Le vieux Québec, en fait, c'est je pense, 2,5% de la ville, quelque chose comme ça, de la superficie de la ville, de la taille de la ville. C'est deux fois rien. Quand on dit le Québec, ville du patrimoine mondial, on devrait dire le vieux Québec, patrimoine mondial.
Et éventuellement, si justement il n'y a pas ces poumons-là qui viennent en appui, si on ne pense pas régionalement, dans le fond, à développer le patrimoine, est-ce que ça risque éventuellement aussi d'amenuiser peut-être un peu l'impact du Vieux-Québec en termes de patrimoine et de se dire, ben OK, il y a simplement le Vieux-Québec qui est patrimoine mondial, le reste ne reflète pas cette réalité-là, donc ça perd la valeur du Vieux-Québec comme patrimoine mondial.
Oui, mais c'est le danger. C'est un danger qui a été constaté à bien de reprises par bien du monde dans beaucoup de villes. Hein, c'est toujours, on centre tout son intérêt sur une tête d'épingle, puis on oublie tout le reste qui est autour et qui a autant de valeur. D'ailleurs, le patrimoine de Limoilou, nous sommes. Il faudrait tout de même s'en occuper sérieusement. C'est fantastique. Il y a des choses que je vois, etc. Je me dis, mais on devrait sauver ces choses-là. Un jour ou l'autre, on va dire, oh, ce vieux escalier, là, on va le démolir. Il faut le vieux Limoilou, il faut le conserver. Et partout dans les quartiers où je passe, je me dis, c'est la même chose. Et pourquoi tout concentrer sur la Grande Allée, sur la Saint-Louis, la rue Saint-Louis, le château Frontenac, etc. On dirait que chez les gens, il n'y a que ça. Il n'y a que le Parlement, le château Frontenac, la basilique.
Ouais. Est-ce que c'est un peu, en fait...
C'est ça.
Est-ce que ça peut être dans la manière de penser le patrimoine où on le voit beaucoup en matière de potentiel touristique d'abord, plutôt qu'en matière de patrimoine, point?
Ben là, tu touches un point. Bien je m'excuse, sûr. Serge. Oui, ben tu veux bien, juste un mot. Là, je suis très heureux de cette question. Parce que je constate une chose, c'est que tout ce qui se dit présentement sur la ville de Québec n'est orienté que dans une seule direction, le tourisme. Ça veut dire les restaurants, les cafés, les bars, les vendeurs de t-shirts, etc. Mais ça se limite vraiment à ça. Mais on dirait que tout est centré là-dessus. Tout est pour le tourisme. Je dis ceci, et ça a été dit non pas par moi, mais par des maires que j'ai rencontrés, qui m'ont dit ceci, la ville est d'abord faite pour les contribuables, et ensuite, si les contribuables vivent bien dans cette ville, eh bien les gens d'alentour et de partout dans le monde vont passer voir comment ça se passe. Mais on ne fera pas une ville touristique. Et je crois que c'est là qu'il faut se battre contre cette idée qu'on fait une ville touristique. Barcelone n'a pas décidé qu'elle était touristique. Elle n'a pas décidé elle-même d'être touristique. Elle est touristique pourquoi ? Ben, parce qu'on a fait des aménagements là pour le bien-être des citoyens. Et puis que tout ça s'est dit et redit et redit, et puis on va voir ça.
Et qu'on a conservé ce qu'on avait précieux.
Bien sûr.
Évidemment, Barcelone est une ville très ancienne remonte.
C'est ça. Enfin, il y en a bien.
Au Moyen Âge, mais on n'a pas rasé ça. On aurait pu dire c'est trop vieux, ça tient plus debout.
Ça tient plus debout. Mais il y en a bien des endroits.
On va reconstruire quelque chose qui ressemble un peu à la Disneyland. Mais
c'est ça.
Et c'est un problème à Québec, me semble-t-il, c'est que avec cette vision de vouloir attirer le tourisme d'une certaine façon un peu artificielle, je dirais. On construit des trucs, on aménage des trucs pour faire en sorte que ce soit intéressant pour les agences de voyage, peut-être.
Et
ceux qui vendent.
Mais une ville n'est pas faite pour ça.
Là. Mais une ville, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au point de départ, une ville, c'est pour que les gens qui y sont vivent bien. Et moi, j'ai rencontré le maire Labeaume l'an dernier pour voir un petit peu s'il y avait des choses qu'on pouvait partager, entre autres, sur la question du patrimoine. On a parlé de la question de Saint-Vincent-de-Paul, mais on a parlé beaucoup plus largement que ça. Je pense que j'ai découvert à ce moment-là que j'étais aux antipodes de ce qu'il pouvait avoir comme vision, parce que pour lui, il faut que la ville devienne attrayante pour l'extérieur, et si elle est attrayante pour l'extérieur, elle sera merveilleuse pour les gens qui y habitent. C'est le monde à l'envers.
C'est exactement
l'inverse de ce qu'il faut faire, à mon sens.
Tout à fait.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'attirer des gens ici, que ce soit par le tourisme ou que ce soit par le développement d'activités qui sont intéressantes, qui sont stimulantes. Mais il faut, au point de départ, qu'on se dise qu'est-ce qui est une vie agréable dans une ville et de quelle façon on peut s'appuyer sur les atouts que nous possédons, en particulier le patrimoine, parce que Québec et la région de Québec, c'est une région avec une charge historique considérable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? D'autant plus que Québec, c'est pas rien à l'échelle mondiale par rapport au tourisme. Là, c'est déjà quelque chose qui est très bien implanté. Mm-hmm. Moi, quand je les vois nous dire qu'on a besoin du Red Bull Crash Ties pour que Québec soit sur la planète, mais Québec est déjà sur la planète, ma foi. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que cette idée ridicule? Bon, moi, je veux bien respecter les amateurs aussi, mais il faudrait que les amateurs respectent les gens ou les autres
aussi,
également, qui ne sont pas des amateurs. Et les promoteurs devraient aussi apprendre à respecter les populations qui sont sur place.
Mais à la limite, en fait, ce serait peut-être d'utiliser des événements comme ça et les moyens qu'on a pour développer d'autres poumons, pour dire, OK, on a une vitrine qui est disponible, où peut-on la placer pour essayer de pousser d'autres secteurs pour qu'il y ait d'autres intérêts à Québec que le Vieux-Québec au point de vue touristique, comme on disait tout à l'heure? Ben,
moi, je pense qu'il faut se faire une idée. Est-ce qu'on veut que Québec, parce que de temps en temps, on entend dire par certains politiciens au niveau municipal ou à d'autres niveaux aussi, Québec, c'est une ville culturelle. Mm-hmm. Bon, si c'est une ville culturelle, et moi j'en suis, je pense que tout est là, eh bien, travaillons sur ce point-là. Mais là, à l'heure actuelle, on tire sur tout ce qui bouge, on essaye d'attraper tout ce qu'on peut. On va finir par attraper des mouches, si ça continue. Et je pense que ça s'en va dans n'importe quelle direction, sauf Québec, ville culturelle. Et on risque de manquer le bateau si on fait pas quelque chose de cohérent, encore une fois, si on n'a pas une vision d'avenir. Alors, si Québec est une ville culturelle, à titre d'exemple, bien, on va protéger les fonctions culturelles, on va protéger, bien sûr, le patrimoine parce que c'est une valeur culturelle, on va organiser des événements qui sont respectueux de cet espace-là. Bon, je peux pas m'empêcher de parler du musée. Le musée qu'on va agrandir, pour quelle raison est-ce qu'il faut qu'une institution culturelle s'attaque à quelque chose que moi je considère comme état du patrimoine, même si c'est pas classé, le monastère dominicain. C'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est levé un matin en prenant sa tasse de café et a dit « Ah ben moi, je veux que la porte du musée soit sur le trottoir de la Grande Allée. » Mais c'est pas une vision, ça. C'est de l'entêtement. C'est de la folie, un peu. Je m'excuse, M. Porteur, mais... Que voulez-vous? On voit pas les choses de la même façon. Je pense que dans ce cas-là en particulier, on veut quelque chose de culturel, l'entrée actuelle du musée a déjà une entrée majestueuse. Ce qui gâte la sauce, c'est ce qu'ils ont mis entre les deux, entre l'ancienne prison et l'ancien musée. Alors, il y a là un espace magnifique. Ça, détruisons-le. Je ne pense pas que ça fasse partie du patrimoine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais sans le détruire, améliorons ça, puis faisons une vraie passerelle pour un musée vivant, un musée qui respecte les gens.
De ce que tu dis, j'ai la tentation de dire que du sens touristique qu'on développe très fort, on développe le sens touristique. On dirait que tout est touristique, que tout doit être touristique. Moi, j'opposerais à cela le sens civique. Et j'ai l'impression qu'à l'Hôtel de Ville, comme ailleurs, d'ailleurs, dans bien des endroits, on a oublié ce que c'est le sens civique. Et le sens civique, c'est le sens de la ville. Mais la ville est faite de citoyens. La ville est faite de contribuables. La ville est faite de gens qui, tous les jours, beau temps, mauvais temps, hiver comme été, circulent dans la ville, travaillent dans la ville, se récréent dans la ville, vont dans les stations de les piscines, etc., de la ville, le tennis, etc., et se cultivent au théâtre, etc., ils vont partout. Ça, c'est le sens civique, et l'habitation, évidemment, est précisément un des premiers sens civiques qu'une ville devrait développer. Car l'habitation, c'est ça le principal. Oui. Or, on manque d'habitation pour des gens qui en ont besoin. Et plutôt que de construire des tas de choses inutiles comme on le fait maintenant, éphémères bien trop souvent, et qui coûtent très cher, mais personne s'énerve. Personne s'énerve là-dessus. Mais on dit c'est normal. Eh bien non, moi je dis c'est normal, c'est là où on a un déficit démocratique dans le sens civique. Ce sens civique du terme, ça veut dire le sens de la responsabilité envers les contribuables. Parce que tous nous payons des taxes à la ville, tous nous demandons le retour de nos taxes en bien-être, en sécurité et en commodité.
Il y a des gens qui vont dire par contre, ah mais vous avez des retombées économiques pour vos taxes en maximisant le potentiel touristique, on fait venir des gens, ça a un impact. Avec un projet comme Rabascon, on crée des emplois, on fait venir du capital, ça a un impact positif. Ouais. Donc toute cette idée de rentabilité économique qui est nécessaire pour certains.
C'est ça. Oui, c'est vrai, mais un tourisme bien compris aussi peut être très bien vu, parce que on ne peut pas se battre contre l'industrie du tourisme. Moi, j'ai compris ça il y a longtemps. C'est tellement puissant, c'est tellement fort, en milliards, en mille milliards de dollars dans le monde. C'est l'industrie en pointe. Là. Regardez le nombre de croisières qu'il y a maintenant. Il n'y en avait pas avant. Maintenant, il y en a à la tonne, comme vous voudrez. Les prix des transports aériens, vous savez tout ça. Donc, l'industrie touristique, c'est une industrie contre laquelle c'est un mur. Alors, il faut s'allier l'industrie touristique. Mais ce n'est pas en lui disant « fais ce que tu veux dans ma ville » que je vais m'allier le tourisme. Il faudrait négocier avec le tourisme, d'abord, pour que tout ne se passe pas au même endroit, que ce soit précisément, comme on l'a dit, dans les noyaux extérieurs de la ville, qu'il se passe des choses. Il faudrait aussi que Rabaska, par exemple, mais est-ce que ça va nuire aux croisières, Rabaska? Moi, je crois que oui, ça aurait nuit aux croisières. Parce que d'abord, de toute façon, les dangers d'explosion, les dangers de toutes sortes, à l'entrée dans l'endroit le plus rétréci du fleuve, à l'entrée de Québec. Alors, ça, on pourrait dire, ben tiens, il y a contradiction aussi. Alors, les économistes n'ont pas tous raison. Certains ont des vues plus claires que d'autres, mais il n'empêche néanmoins que l'industrie touristique est une bonne industrie, mais elle devrait être, comme je dis, avoir le sens civique, elle aussi. Ça veut dire se tourner vers les gens. Et une ville n'est pas faite pour le tourisme. Une ville devient, par la suite, on la visite, on se rend compte. Nous allons chez des parents à l'extérieur, nous allons chez des amis, etc. C'est déjà du tourisme, de toute évidence. Il y a des gens qui viennent à Beaupré, au sanctuaire, ben, c'est du tourisme aussi, du tourisme religieux. Mais il y a tourisme, enfin, il y a la nature, etc. Donc, il y a assez pour faire bien et vivre économiquement une industrie. Est-ce qu'il faut en rajouter dessus? C'est ça mon problème. Est-ce qu'il faut toujours en rajouter et n'avoir que ce mot-là à la bouche? Tourisme. Alors moi je dis citoyen. Alors c'est la nuance. C'est la nuance.
Oui, tout à fait. Et je pense que le tourisme, il faut voir de quelle sorte de tourisme on veut aussi.
Oui,
je pense qu'il faut, sans doute négocier, mais établir un cadre, établir des espaces qui feront en sorte que le tourisme sera intéressé à ce que nous voulons offrir aussi. Mm-hmm. Ça n'est pas à l'industrie d'imposer sa vision des choses et de dire, ce que ça nous prend, c'est des stationnements pour les gros autobus, mm-hmm. ce que ça nous prend, c'est des voyages en avion. Et il faut aussi, au 21e siècle, je pense qu'on serait irresponsable de ne pas faire de lien avec les conséquences écologiques d'un certain type de tourisme aussi. Je pense qu'il faut regarder les choses avec un œil vert et un œil vert foncé, je dirais, parce que particulièrement l'industrie touristique n'est pas une industrie qui est très, très compatible souvent avec le respect de l'environnement. Alors, c'est là le rôle d'une ville, à mon sens, et de gouvernement, d'établir des règles que les entreprises vont respecter parce que leur principe, c'est de faire de l'argent. Et tant qu'il y a de l'argent à faire, faites-vous-en pas, ils vont être là, peu importe les règles que vous allez établir. Je me souviens une fois, j'avais entendu quand j'étais président du syndicat de la fonction publique, on avait invité Ricardo Petrella, qui est un grand militant sur la question de l'eau, notamment, et qui avait dit, les grands investisseurs, les grands financiers à travers le monde, ils ne regarderont pas si la ville de Québec, ça parle juste français ou etc. Ça, ils s'en foutent carrément. Ils ne regarderont pas si les fonctionnaires sont bien payés ou mal payés. Ils vont regarder quels sont les avantages qu'ils peuvent tirer de leur présence ici. Et s'ils doivent payer des impôts, mais qu'ils font quand même des profits, ils seront là tout de même. Et c'est pas ça qui détermine leur choix. Alcan, quand ils décident d'être au Québec, c'est parce qu'ils sont bien implantés, c'est parce qu'ils ont accès à des sources d'énergie, à l'eau. Et ils partiront pas parce que vous décidez d'établir des règles qui sont respectueuses des citoyens, respectueuses de la société.
Alors là, je reprends un de tes arguments tout à l'heure, c'était la vision, la perspective. Mais je crois ici, nous sommes à un tournant entre tourisme et civique, de dire, pour les citoyens, qu'est-ce que c'est qui compte? Parce que moi, je suis dirigé par l'hôtel de ville, mais je vis dans cette ville. Qu'est-ce qu'on doit nous donner comme premier, et n'est-ce pas, comme premier objectif de gouvernement municipal? Ce n'est pas la qualité de la vie. C'est la qualité du cadre de vie. Alors moi, je crois qu'une fois, si on disait cela, et qu'on subordonnait les autres activités économiques à celles du cadre de vie, parce que le cadre de vie des citoyens, c'est la santé des citoyens. Alors on a beau dire, je suis vert, je mets mon cyclage, etc., c'est très beau, mais le cadre de vie lui-même doit être aménagé pour le bien-être du citoyen et la sécurité du citoyen. Et à partir de là, je subordonne le tourisme à cette condition-là, qu'il respecte le cadre de vie. Or, j'ai vu dans les derniers projets que, dans le Vieux-Québec, entre autres, par exemple, puisque tout se passe là, le retour, on en vient toujours là, c'est que, on n'a pas respecté le cadre de vie des gens, on ne le respecte pas. Et qu'il y ait du bruit, qu'il y ait ceci, ben, on dit, allez ailleurs si vous n'êtes pas bien en ville, etc. C'est pas une réponse. Je regrette beaucoup, mais c'est pas une réponse.
On peut pas couper un secteur des citoyens. Voilà. On peut pas couper le patrimoine des citoyens non plus. Le patrimoine doit être vivant.
Mais c'est ça.
Et moi, j'ai pas voyagé partout à travers le monde, mais là où je suis allé, particulièrement en Europe, il y a plein de villes de la taille de Québec, parfois plus petites, parfois plus grandes, où le cadre de vie, justement, fait en sorte que les citoyens, les gens sont restés dans les espaces patrimoniaux et vivent normalement dans les espaces patrimoniaux. Pourquoi ici? Par quelle espèce effet de magie, magie noire, est-ce que ça serait pas possible? Ben voyons donc. C'est parce qu'on est à genoux, on est prosterné devant le dieu tourisme. Ah, et plus profondément que ça, au fond, cette espèce d'idée que la richesse se trouve par là.
Voilà.
Ben, la richesse, c'est pas seulement que monétaire, c'est aussi dans les esprits et dans les cœurs.
Exactement, exactement. C'est pour ça qu'il faut retrouver, il faut redécouvrir précisément ce sens de la responsabilité, retrouver le sens des petits espaces même. On avait commencé ça avec, enfin, Jean-Paul Dallier avait commencé ça, un petit coin de rue, là. Deux bancs.
Oui, tout à fait.
Un peu de verdure, petite fontaine, bonjour. C'était pas énorme, ça ne faisait pas des bulldozers à n'en pas finir, ça. Non, mais c'était pour les gens très intéressant. De la maison aller en face avec des petits-enfants, c'était magnifique. Alors, je crois que ça, il faut redécouvrir même le modeste, le petit, l'humble. Et c'est une chose qu'on n'a plus du tout dans notre société. Et en Québec, vraiment, on l'a perdu. On est toujours parti en orbite sur tout ce qu'on veut. Plus c'est haut, plus c'est gros, plus c'est bruyant, plus c'est épatant, plus c'est tonitruant, ça va être bon. Mais si c'est humble, si c'est modeste, si c'est juste à la bonne place, bon, c'est pas assez, ça. Oh non, c'est pas assez. Il faut que ce soit beaucoup plus, showbiz, là.
C'est flashé, en québécois, flashé.
Flashé, et flashé. Alors c'est ça, alors c'est toute la nuance, c'est ça la vision dont on parle depuis le début, c'est qu'il faut remettre les choses en place et essayer de retrouver, parce qu'il y a des choses qu'on devrait faire en ville que je ne vois jamais, ce sont les corridors visuels. Il y a parfois, tu t'arrêtes à un endroit, tu regardes, tu dis, bon Dieu, quelle belle vue. Ce n'est signalé nulle part, ce n'est dit nulle part, oui. C'est rien du tout.
Oui.
Et parfois, même des constructions qu'on construit à tel endroit, on devrait dire, hold minute, là. Attention. Je prends Saint-Vincent-de-Paul. On est sur une falaise. Et là, on me dit que les sœurs de l'autre côté, là, voudraient vendre aussi un jour ou l'autre. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, on me dit que toute la falaise, c'est comme ça. Et alors, il dit, plutôt que de s'intéresser vraiment uniquement à ce petit bout de terrain de Saint-Vincent-de-Paul, on a la falaise. C'est pas immense, c'est pas gros, etc. Mais on a investi je ne sais combien de dizaines de millions de dollars pour faire Champlain, boulevard Champlain, qui est bien, qui est sympathique et tout ce qu'on veut, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas pu en mettre un peu de l'autre côté sur l'autre falaise aussi?
Voilà, certain.
Mais l'autre falaise, c'est pas intéressant. Parce que ça regarde la basse ville, ça regarde des endroits peu, ça flash pas là, hein, tellement.
Non, mais ça regarde quand même les montagnes.
Oui, mais le Laurentide et tout ça.
Les Laurentides, absolument. Et tout ça est un paysage magnifique. Oui, je comprends ce que tu dis.
C'est que l'autre, c'était le fleuve qui était juste là, donc il fallait faire quelque chose. Ouais. Et précisément pour. Quand on voit la justesse des investissements, on peut s'interroger aussi, le degré des investissements. Ce boulevard Champlain, qui est très bien, rien à dire, encore qu'il y a des petites déficiences ici et là, mais ça a coûté très cher. Est-ce qu'on demandait cette chose-là? Est-ce qu'on ne demandait pas, je vois de l'autre côté, à Cap-Rouge et à Sainte-Foy, il y a un petit sentier qui est fait, qui est très intéressant, il est très gentil, tout ça. Sur l'autre rive, près de Lévis, à Saint-Romuald, il y a une magnifique promenade aussi. On n'a pas fait des investissements de centaines de millions, ou de dizaines et des dizaines de millions. Parce que le bout de Champlain, à 2,5 km, c'est le petit bout de route le plus cher au monde. Voilà.
Et peut-être en conclusion de tout ça, on a lancé des idées, des réflexions. Peut-être si on synthétisait tout dans une question qu'on aimerait poser, dans le fond, aux gens qui vont tenter de briguer le vote en route vers les élections municipales. À quelle question, candidats à la mairie, les candidats municipaux au poste de conseiller, à quelle question vous aimeriez qu'ils répondent?
Tu sais, il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20 en ce qui me concerne, mais ce serait précisément de définir, premièrement, de définir ce que l'on veut pour la ville dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Essayer de voir un peu ce que l'on veut. Est-ce qu'on va se limiter encore aux vieux? Est-ce qu'on va se limiter à la colline parlementaire et puis bonjour à la visite? Ou bien est-ce qu'on va autrement déployer ses ailes sur toute la région en faisant des efforts dans les quartiers? Moi, je suis étonné de voir qu'il y a des arrière-cours, des cours dans les quartiers qui sont affreuses. On devrait les remettre en ordre et on devrait aider les gens à le faire. Et on devrait aider les gens à faire des façades, à refaire leurs toitures, etc. Donc des programmes d'habitation pour remettre la qualité de vie chez les gens.
Oui, ben, en tout cas, peut-être un peu dans le même sens, la question que je poserais spécifiquement, en lien avec ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est par rapport à la qualité de vie et au cadre de vie.
Ouais.
Et la question que je poserais, c'est est-ce que vous êtes prêt ou prête, je ne sais pas s'il y aura une femme candidate, pour l'instant on ne le sait pas, est-ce que vous êtes prêt ou prête à donner la priorité au cadre de vie pour ce qui est de l'établissement d'un principe du développement de la Ville de Québec? Dans le sens où Marcel l'a indiqué tout à l'heure, à partir de ce cadre de vie, toutes les autres fonctions, tous les autres projets devraient être cohérents et en lien avec ce cadre de vie-là. Et qu'est-ce que vous allez faire pour le réaliser?
Mais Serge Roy, donc porte-parole de Québec solidaire pour la capitale nationale, Marcel Junius, architecte et urbaniste, merci beaucoup à vous deux.
Au plaisir.
On poursuit donc ces regards, ces réflexions autour de la question du tourisme, du patrimoine et du développement de Québec en fin de compte. Alors on en discute maintenant du point de vue du fleuve, du point de vue de l'eau et du point de vue de l'accès aussi à cette eau, à ce fleuve. Je suis en compagnie de Léon Senot. Léon Senot qui est le président de la Société des gens de baignade. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, il faut dire, en fait, justement, quand on parle d'accès au fleuve, est-ce qu'on a l'impression, quand je regarde un peu ce qui se passe, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on avait mis une barrière de béton, peut-être même, entre nous et entre le fleuve, et que tranquillement, avec, par exemple, le projet de la promenade Samuel de Champlain, par exemple, avec la baie de Beauport, on est en train d'essayer de se réapproprier, peut-être un peu, ce patrimoine naturel-là?
Oui. L'intention est là. L'expertise ou la, si on veut, la conscience historique n'est pas nécessairement là. Il faut, j'ai entendu ce qu'a dit M. Junius tantôt au sujet de la promenade Samuel de Champlain. Il avait bien raison en ce sens que ce fut un investissement assez énorme pour 2,2 km dans un endroit qui est relativement isolé et où il n'y a personne, dans le fond, là, normalement. Là. Et on n'a pas mis de sous pour accéder au fleuve, au centre-ville, là où se trouve tout le monde. Ce sont des choix qui sont dictés par la configuration administrative existante à Québec. En ce sens qu'au centre-ville, le gouvernement de la province n'a pas d'accès ni mental, ni physique, ni légal au fleuve. Ce dont vous parlez, les barrages de béton et tout ça, ça s'est passé au 19e siècle. Il faut comprendre ce qui s'est passé au 19e pour nous comprendre aujourd'hui. C'est normal, là, c'est comme ça dans les villes. Au 19e siècle, vous avez eu la réquisition des rives de la ville de Québec de l'époque par les fonctions maritimes et portuaires. Et c'est normal, c'était une grande ville portuaire, Québec, à cette époque-là. Et là, à cette époque-là, toutes les rues qui menaient au fleuve, tous les accès publics ont été éliminés par des quais qui ont été construits peu à peu. Et après, ces quais privés, cette privatisation des rives, ils ont été réunis en un seul corps qui s'est appelé le port de Québec. Le port a rempli sa fonction de port tant qu'il pouvait. Aujourd'hui, on se trouve au centre-ville, je parle, surtout au centre-ville, avec des quais, des structures qui n'ont plus de sens économique, souvent. Mais par contre, ça reste là parce que c'est lourd, parce que y penser même, c'est compliqué. Et on ne peut pas trop y penser parce que ceux qui pourraient y penser, c'est le port. Ce sont les intérêts maritimes et portuaires. Et puis, oublions pas que ce milieu-là est très, très traditionnaliste. C'est-à-dire, ce sont pas des révolutionnaires là-dedans. Là. C'est rare. Donc, et Québec n'est pas assez grosse pour justifier ce qu'on appelle une bourgeoisie d'affaires maritimes qui pourrait générer des penseurs, des sociologues, qui pensent à des choses comme ça. Donc, c'est pas simple de retrouver, c'est pas tellement l'accès, c'est les usages de ce fleuve-là. De considérer le fleuve comme un outil et non pas comme un paysage.
C'est que les gens le voient peut-être un peu trop comme un outil de développement économique pour justement le transport maritime, pour l'industrie, alors qu'ils pourraient le voir comme un outil aussi pour la population, pour la qualité de vie citoyenne.
Aïe, aïe, aïe. quand vous parlez de développement économique, c'est pas seulement l'industrie, le développement économique avec le fleuve. Si on avait une pensée différente pour l'accès et l'usage du fleuve à Québec, on développerait de façon économique beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous avez des fonctions industrielles qui rapportent, disons, mettons 10 millions de dollars. Eh bien, ces fonctions-là sont peut-être en train de prendre la place de fonctions récréatives qui en rapporteraient 100 millions de dollars. Et c'est ça qui n'est jamais calculé ni à Québec, ni au Québec. On n'a pas la conscience qu'on peut calculer, qu'on peut évaluer les retombées économiques des accès publics, par exemple. Tout le monde s'en va à Ogunquit. Apparemment, 200 000 Québécois, je pense, quittent l'été pour aller chercher de l'eau ailleurs qu'au Québec. On perd des milliards de dollars. Personne ne s'intéresse à ça. Ni le ministère du Tourisme, ni le fédéral, ni les municipalités. Ils voient leur argent partir l'été, s'en aller aux États-Unis. Ah, c'est normal. Et puis, ces gens-là amènent avec eux de l'argent. Aux États-Unis, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, on considère, par exemple, les plages comme des outils de développement économique. C'est pas du social. C'est pas de... Même si l'impact social est très fort, c'est économique. Regardez ce qui va se passer à Beauport. Le fédéral vient de mettre 18 millions. Le port demande 350 millions de nos taxes pour écraser le développement qui vient d'être fait. Même s'il ne l'écrase pas directement, il va l'écraser indirectement. Mmh. Et puis, il va en interdire toute croissance. Ça n'a pas de bon sens d'interdire la croissance d'un équipement qu'on vient de payer 18 millions à la péninsule de Beauport. Prenez la promenade Samuel de Champlain. Oublions pas que cette réalisation est surtout une réalisation architecturale. Ça consiste pas à donner des accès au fleuve à cet endroit-là. Même s'ils ont fait 3 escaliers, 4 à notre demande. Mais ces escaliers-là, à quoi servent-ils? Le fleuve à cet endroit-là, d'ailleurs, est pas facile à utiliser parce que le courant est tellement fort. Donc, il faut connaître le fleuve. Il faut connaître où sont les poissons si on veut favoriser la pêche. On pourrait au moins faire une rampe de mise à l'eau. On est 600 000 dans la région de Québec. Où est-ce qu'il y a une rampe de mise à l'eau?
Dans des marinas privées, essentiellement.
Oui, ça coûte très cher. Et vous pouvez aller voir celle de Sillery, le spectacle est assez intéressant.
Et dans ce sens-là, dans le fond, ce serait de se dire, ben regardez, si on se donne une installation comme ça, on peut avoir un impact favorable, mais en parallèle, les gens vont se dire aussi, quand on regarde le fleuve et quand on se dit, ben moi, je vais aller me baigner à Gaspé, moi, j'allais me baigner dans Baie de Fundy, moi, j'allais me baigner à Haut-Dossard, à la place de me baigner à Québec, c'est qu'on se dit, ben notre eau est pas propre, notre eau est pas bonne, donc faut aller la chercher nécessairement ailleurs.
Ben, si l'eau est pas bonne, comment ça se fait qu'à Portneuf, ils vont avoir la traversée du fleuve en grande pompe dans une dizaine de jours? La traversée, en tout cas, ça nage dans le fleuve à Portneuf. Comment ça se fait qu'on peut pas nager à Québec? Il y en a un qui vient d'essayer de faire le tour de l'île d'Orléans à la nage. Il y a personne qui a posé un point d'interrogation sur la qualité de l'eau du fleuve. Mm-hmm. On peut aller à Lévis. C'est pas loin, Lévis. Il y a des plages qui sont pleines de monde, puis tout ce beau monde-là se baigne dans le fleuve. À tous les années, il y a des courses à la nage dans le fleuve. Le marathon de Lévis, le marathon, il y a une partie qui se déroule dans le fleuve. À Lévis, le fleuve, il sert à nager. À Québec, impossible de nager. Cherchez l'erreur. C'est que le comportement des gens est lié à leur culture. Et la culture de Québec, c'est une autre histoire. C'est bloqué depuis très, très longtemps. Depuis 200 ans, ça s'est bloqué. Prenez le quartier Saint-Roch. Le quartier Saint-Sauveur, collé à Saint-Roch, et même Limoilou, une des raisons, peut-être la principale raison pour laquelle ces quartiers ont périclité depuis 150 ans, c'est que, mettons 125 ans, c'est entre autres l'effondrement de l'économie portuaire, ça je suis d'accord, qui assurait beaucoup d'emplois dans la construction maritime et tout, mais c'est le blocage de tout développement du côté du fleuve. Mm-hmm. Ce sont des quartiers dont le fleuve constituait l'exutoire beaucoup pour des fins de récréation. Ça, on a découvert ça avec Philippe Aubert de Gaspé qui en parle et tout ça, mais il faut chercher. Mais ça constitue un exutoire, le fleuve, pour aller pêcher, pour aller se laver, pour aller chercher de l'eau, pour accueillir toutes les marchandises qui arrivaient de partout. Tout ça, ça a été bloqué. Mm-hmm. Et là, nous autres, ce qu'on essaie de faire, nous autres, étant un réseau assez intéressant, qui compte de nombreux élus, c'est qu'on essaie de redonner des accès et des usages au centre-ville de Québec.
Oui, tu veux dire, dans le fond, on peut pas, si on veut se baigner à Québec, on n'est pas obligé d'aller au lac Saint-Charles. On pourrait rapprocher ça aussi d'autres centres citadins, dans le fond.
Il y a de l'eau devant. Regardez, prenez le bassin Louis. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui s'accumulent sur le quai en regardant le moulin à images. Juste devant eux, à 2 mètres, il y a de l'eau. L'eau est bonne. L'eau est bonne maintenant. Bon, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'accès aux personnes, aux gens, à ce plan d'eau, tandis qu'il y a accès pour des bateaux? Excellente question. Bon, après ça, on peut se demander pourquoi faire le alentour du bassin Louis, ce sont tous des parkings. Et à qui ça profite? C'est-à-dire, où vont les profits? Les profits des parkings, ils vont pour faire vivre la marina, pour faire équilibrer l'économie de la marina. Est-ce que c'est normal d'avoir une marina privée, un club privé, qui occupe de façon exclusive un tel plan d'eau au milieu d'une capitale nationale? Ça, c'est en train d'être vu comme non normal par un pourcentage de plus en plus grand de la population. Par ailleurs, ceux et celles auxquels ça profiterait le plus, ce sont les quartiers centraux. Donc, souvent des quartiers de la basse ville. Donc, des difficultés accrues pour permettre, donner accès à ces populations au fleuve. Si ces populations, au point de vue réputation culturelle et tout, étaient pas celles qu'elles sont, ça serait beaucoup plus simple. On nous l'a dit assez souvent. Mais d'ailleurs, dans plusieurs villes, c'est comme ça. Quand vous voulez donner un accès à la mer, si le quartier auquel vous allez donner accès est un quartier populaire, très difficile. C'est beaucoup plus facile de donner accès à un quartier huppé. Ça, c'est normal. Pour les gens plus riches, plus en moyen, culturellement plus capables, davantage capables de s'exprimer, ça, c'est facile d'avoir accès à la plage. Mais vous n'avez pas accès à la plage quand vous êtes un quartier populaire, souvent. À moins d'un effort conscient et démocratique des autorités. Et ça, c'est pas simple.
C'est pas simple parce que, dans le fond, quand on regarde le fleuve, vous le mentionniez au départ, Léon Snow, il y a le fédéral, il y a besoin d'une volonté, le port de Québec. Et donc, dans le fond, est-ce que au municipal, dans le fond, on peut avoir un poids aussi, les conseillers, le maire peut avoir un poids en disant, regardez, il faudrait qu'il y ait des accès, il faudrait maximiser des accès pour la population et pour les visiteurs et pour les retombées économiques que ça générerait aussi. Est-ce que, en ayant une volonté à ce niveau-là, à ce palier-là, on peut avoir un impact aussi?
Oui. S'il y avait la volonté, il y aurait impact. Le gouvernement fédéral, lui, il va avoir tendance à suivre ce que lui dira les municipalités, les élus municipaux, les élus provinciaux. Mais c'est pas pour rien qu'on les appelle des élus provinciaux. Ce sont des élus de province. Et assez nombreux sont ceux qui nous disent « Le fleuve, c'est fédéral. C'est pas de nos affaires. On s'en occupe pas. C'est pas dans notre charte. » Même chose pour la Ville de Québec. La conscience ou la capacité de la Ville de Québec de penser le fleuve et penser le port est relativement limitée parce que la juridiction de la Ville de Québec et de ses élus s'éteint, s'effondre, se dissipe à peu près à 30 pieds du bord, 50 pieds. Ils n'ont pas d'accès au fleuve. Ils n'ont pas d'accès, leurs chiffres, quand ils se mêlent d'une question qui relève du domaine portuaire, on leur dit « Retournez chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Votre chez vous, il arrête avant d'arriver au fleuve. Le fleuve, ça nous appartient à nous, l'autorité portuaire. »
Lévis a du fleuve de son côté, mais pas Québec, dans le fond.
L'autorité portuaire est quasiment inexistante à Lévis. Ouais. Et puis, à Lévis, ils n'ont pas eu tous ces millions pour enrocher le fleuve et tout ça. C'est ça qui a préservé le bord du fleuve à Lévis. C'est que les ingénieurs n'ont pas eu assez d'argent pour tout enrocher l'histoire, et puis c'est pour ça qu'il leur reste des plages, qu'il leur reste des choses. Il faut, en général, il faut réfléchir avant de mettre du béton ou mettre de la roche. Vous pouvez mettre des herbes, là, ça s'enlève facilement, mais prenez le bassin Louis, on vient de mettre 10 millions, c'est étant le fédéral, Parc Canada, tout ça, 10 millions pour refaire le côté du bassin Louis, mais refaire un club privé. C'est plaisant. Quand on est un club privé, on se fait aménager son club. Moi, je dis que et les Québécois de la capitale et les Québécois de tout le Québec, et les Canadiens, quand ils viennent à Québec, et tout le monde, ils devraient avoir accès à un tel bassin. Et la priorité, ça serait de prendre les bateaux, s'apercevoir que les bateaux, surtout les plus gros, mais même les moyens, peut-être qu'on pourrait les mettre ailleurs qu'au centre-ville de Québec. S'il y a tellement d'usagers éventuels, c'est les usagers. Il faut essayer de tout équipement, là, que ce soit un équipement sur le bord de l'eau ou ailleurs, il faut qu'il soit polyvalent puis qu'il s'adresse au maximum de clientèle possible. Ça ne veut pas dire que c'est des clients, ce sont des usagers. Si vous ne faites pas ça, votre équipement n'est pas réellement rentable. Il faut prévoir l'hiver aussi. Il faut prévoir les quatre saisons, il faut tout prévoir ça.
Et en conclusion, en quelques mots, Léon Snow, qu'est-ce qu'on attend des élections 2009 qui s'en viennent?
Eh bien, des élections au municipal.
Au municipal.
Et peut-être au fédéral aussi. Eh bien, au municipal, en tout cas, on va tenter de rejoindre chaque prétendant et lui demander s'il accepte qu'un club privé continue son petit bonhomme de chemin au centre-ville, tandis qu'il y a 600 000 personnes qui n'ont pratiquement pas d'accès réel à l'eau du fleuve. Et c'est pas une question de qualité de l'eau, là. Au Bas-Saint-Louis, on serait capable de purifier l'eau aussi bien que dans n'importe quelle piscine. Alors, ça serait bien mieux, d'ailleurs. Mais on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est un des projets d'accès au fleuve. Mais aussi, c'est une réflexion qu'il faut faire sur une ville portuaire. Qu'est-ce que c'est qu'une ville portuaire? Qu'est-ce que c'est qu'un port? Qu'est-ce que c'est qu'un quai? Toutes sortes de choses comme ça.
Alors, on garde tout ça en tête. En route vers les élections municipales, Léon Snow, résident de la Société des gens de baignade, merci.
Merci beaucoup.
C'est ainsi qu'on termine l'émission thématique de ce matin, donc autour de cette question de tourisme, autour de cette question de patrimoine à Québec. Quel regard, quel développement préconiser? On espère bien entendu que cette émission et cette semaine vous amènent idées et réflexions, et des réflexions qu'on peut porter, qu'on est peut-être en train de porter également à nos élus municipaux, à nos élus provinciaux, à nos élus fédéraux également.